écoutez RFI, Radio France Internationale, 4h en temps universel, 5h ici à Paris. Une nouvelle demi-heure d'info, Léa Boutin-Rivière, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous.
Un chiffre à la une de votre journal d'abord. Dans le monde, une femme sur trois a déjà subi au moins une fois des violences sexuelles ou physiques d'un partenaire intime.
Et c'est ce qu'affirment les Nations Unies à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On se rendra en Turquie dès le début de ce journal, la Turquie, où une femme est tuée tous les jours. Après un an et demi de guerre, que se passe-t-il au Soudan? Lieu difficile d'accès, bilan quasi invérifiable, information très parcellaire. Les combats font rage entre les troupes du général Al-Burhan et celles du général Hemeti, mais il est quasi impossible d'en rendre compte. Exceptionnellement, RFI a pu se rendre sur place. Reportage à suivre. Également dans cette édition, la justice italienne donne une nouvelle fois tort au gouvernement de Giorgia Meloni. Et puis, dernière chance pour endiguer l'utilisation du plastique. Un cinquième tour de négociation démarre aujourd'hui en Corée du Sud. Viol, violence conjugale, violence économique. Dans le monde, une femme sur trois risque de subir des violences sexistes au cours de sa vie, selon l'ONG Care. C'est pour éradiquer ce phénomène que chaque année, le 25 novembre, marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, RFI se rend en Turquie où une femme est tuée chaque jour. Alors la société civile appelle à se rassembler aujourd'hui, car bien loin de régresser, ces actes sont en fait en hausse constante, particulièrement depuis que le président Erdogan a retiré le pays de la Convention d'Istanbul. Et si les droits des femmes reculent, le mouvement féministe, lui, est de plus en plus investi et de plus en plus jeune à Nanglouer.
Pour Sevin Çalim, avoir 20 ans et être féministe en Turquie,
c'est réaliser que quand une femme ne vit plus, tous les droits qu'on peut acquérir ne servent à rien. C'est donc lutter en priorité pour le droit à la vie.
Sevin appartient à la branche jeunesse de la plateforme « Nous stopperons les féminicides ». Il y a du travail. En octobre, au moins 48 femmes ont été tuées par un homme, le record mensuel depuis 2010. Sevin explique que la situation s'aggrave depuis que la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul.
C'est simple, depuis que nous recensons les féminicides, la seule année où leur nombre a baissé, c'est en 2011, l'année où la Turquie a signé la Convention d'Istanbul. Son retrait, allié à une politique d'impunité et à un discours officiel sexiste qui défend la famille plutôt que les femmes, a créé un climat qui encourage les meurtriers.
La jeune femme pourtant refuse de désespérer.
C'est quand tu es seule que tu te sens impuissante et que tu désespères. Quand j'ai rejoint la lutte féministe, j'ai pris conscience de l'importance de ce mouvement, de son ancienneté et de tout ce que, malgré tout, nous avions réussi à obtenir.
En ce 25 novembre, les ONG s'attendent à ce que, comme chaque année, la police les empêche de manifester. Amandloire Ankara, RFI.
Illustration de ces violences auxquelles les femmes font face partout dans le monde. Un cinquième d'entre elles a été mariée avant ses 18 ans. C'est notamment possible en Irak, où une réforme pourrait même permettre le mariage de petites filles dès leurs 9 ans. Une mesure à laquelle une partie de la société civile est opposée. Reportage à venir juste après ce journal. Les femmes sont aussi les premières victimes d'un conflit oublié, passé sous silence et qui pourtant dure depuis plus d'un an et demi, depuis le 15 avril 2023. Le Soudan est déchiré par la guerre entre l'armée régulière du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Difficile d'obtenir un bilan exact, les informations sont très parcellaires, le pays quasi inaccessible. Mais des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, 11 millions d'habitants ont dû prendre la fuite. Et les ONG recensent de nombreux cas de crimes visant les femmes, des viols, des mariages forcés, du trafic d'esclaves sexuels. Ces exactions sont perpétrées, selon l'ONU, en majorité par les troupes du général Hemeti. Alors certaines Soudanaises ont décidé de prendre les armes et de rejoindre les rangs de l'armée régulière. Notre envoyé spécial, Elliot Brachet, a de manière exceptionnelle pu se rendre à Omdurman. Il y a rencontré certaines de ses combattantes.
Dans la cour d'une école pour filles reconvertie en camp d'entraînement, une centaine d'apprentis soldates se tiennent au garde-à-vous. Avant la guerre, Riham El Hadi, 18 ans, aurait dû passer le baccalauréat. Elle s'est retrouvée piégée dans les combats à Khartoum.
On était coincés dans un quartier, on ne pouvait pas sortir, mais on pouvait les voir. Les paramilitaires frappaient, pillaient. Il y a eu des viols, ils pénétraient dans les maisons et prenaient les filles de force devant leurs parents. C'est arrivé à ma voisine. Des hommes enturbannés sont arrivés. Ils portaient l'uniforme des forces de soutien rapide. Ils ont enlevé la fille et ils l'ont emmenée dans un endroit inconnu. Après quelques jours, on a essayé de payer une rançon pour la ramener chez elle, mais on a appris qu'elle avait été violée et tuée.
La plupart de ces femmes ont fui les zones contrôlées par les troupes du général Hemeti. Désormais, engagées sous les drapeaux du côté de l'armée régulière, elles apprennent la discipline militaire, le maniement des armes, le kung-fu et le tir.
Je m'appelle Rana Mohamed Osman. Ce qui m'a poussée à m'enrôler dans l'armée, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Ce que nous avons vu, ça ne se décrit pas, ça ne se raconte pas. Nous avons été témoins d'innombrables violences. Nous avons vu des vieillards se faire battre, des filles se faire violer. Ici, je défends ma patrie, je défends les filles qui ont été violées. Je veux participer à l'effort de guerre. J'espère qu'ils m'enverront au front.
S'il y a peu de chances que ces femmes soient déployées un jour sur le champ de bataille, savoir porter une arme les rassure. Toutes sont unanimes, elles ne se sont jamais senties aussi vulnérables. Elio Braché, Khartoum, RFI.
Et les reportages de notre envoyé spécial sont à découvrir tout au long de la journée sur Radio France Internationale. 250 roquettes tirées en une seule journée par le Hezbollah. Les violents affrontements entre le groupe chiite libanais et Israël se sont poursuivis hier. L'État hébreu a mené une série de frappes contre le sud du Liban, mais aussi contre Beyrouth, la capitale, où les écoles et les universités garderont porte close aujourd'hui. En visite dans le pays, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a de nouveau appelé hier à un cessez-le-feu immédiat. La situation au Proche-Orient sera au menu aujourd'hui d'un sommet entre dirigeants du G7. Il devrait aussi évoquer la guerre en Ukraine, où des dizaines de drones ont été envoyés par la Russie ce week-end. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs appelé hier soir ses partenaires occidentaux à l'aider à construire un système de défense anti-aérienne pour protéger les civils. D'après Volodymyr Zelensky, des discussions sont aussi en cours pour riposter à un nouveau missile balistique utilisé par le Kremlin. Quant au combat au sol, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière être sur le point d'envoyer des mines antipersonnelles censées ralentir l'avancée des troupes russes. Une mesure vivement critiquée et pour cause. Depuis 1997, la Convention d'Ottawa interdit l'utilisation, la production et le stockage de ces armes extrêmement dangereuses pour les civils. Une réunion démarre d'ailleurs aujourd'hui au Cambodge pour réexaminer la mise en œuvre de ce texte. Et le lieu choisi ne doit rien au hasard. Le sol cambodgien est l'un des plus minés au monde, conséquence directe de 3 décennies de conflits. Elliot de Pharamon est chargé de plaidoyer auprès de l'ONG Handicap International.
Effectivement, cette conférence de révision qui s'ouvre au Cambodge, elle est hautement symbolique, quasiment 27 ans après la signature du traité d'Ottawa, dans un des pays les plus contaminés au monde par les restes explosifs de guerre, les mines antipersonnelles. Et à une heure où on note une recrudescence de l'utilisation des mines, une augmentation du nombre de victimes par rapport à 2022, bien sûr, c'est hautement symbolique et nous appelons les États à renforcer leur condamnation systématique de toute utilisation de mines par quelque acteur que ce soit et dans quelques circonstances que ce soit, à renforcer les moyens mis et le développement de l'assistance aux victimes pour pouvoir apporter une aide durable aux populations, aux survivants et aux survivantes, à leurs familles, aux communautés entières et favoriser de facto également leur inclusion ainsi que l'inclusion socio-économique plus large dans les pays affectés par les mines.
Propos recueillis par Yelena Tomic. Vous écoutez RFI, il est 5h09 à Rome, en Italie, où la justice met de nouveau des bâtons dans les roues du gouvernement. Une nouvelle fois, les tribunaux ont rejeté le projet de l'exécutif de Giorgia Meloni d'envoyer des migrants dans des centres situés en Albanie. Conclusion, les personnes déjà envoyées sur place ont dû retourner sur le sol italien et les quelques 295 policiers et travailleurs sociaux sont en train d'être rapatriés à Nenir.
Les groupes de migrants conduits entre octobre et novembre en Albanie, soit 24 hommes, pour la plupart d'origine égyptienne et bangladaise, ont été renvoyés en Italie sur ordre du tribunal de Rome. Ce tribunal a aussi saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir son avis sur la légalité des centres de rétention en Albanie et de la liste dressée par Rome de 19 pays sûrs, c'est-à-dire où les droits fondamentaux sont censés être respectés. Résultat, la délocalisation de migrants en Albanie est bloquée, au moins tant que ne se prononcera la Cour de cassation de Rome, à laquelle le gouvernement a fait recours pour vérifier si les tribunaux peuvent conserver leur pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation d'un pays sûr. Donc, presque tout le personnel italien qui était en Albanie est ramené en Italie. La Cour de cassation rendra sa décision en décembre, mais les délais pour l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne seront beaucoup plus longs. Anne Lenir, Rome, RFI.
7 milliards de tonnes de déchets plastiques produites en moins d'une décennie, 1 million de bouteilles plastiques vendues chaque minute. Encore aujourd'hui, la population mondiale est accro au plastique, omniprésent dans les objets du quotidien, dans notre environnement et même dans nos assiettes. Et la communauté internationale est d'accord pour le dire, trop, c'est trop. C'est précisément pour cela que plus de 175 pays se réunissent à partir d'aujourd'hui en Corée du Sud pour une cinquième et dernière session de discussion pour un traité sur le plastique. Sauf que, Simon Rosé, ce constat partagé ne suffit pas à s'accorder sur de potentielles solutions.
À l'image des discussions qui viennent de s'achever lors de la COP29 sur le climat, les négociations qui s'ouvrent à Busan s'annoncent compliquées et à l'issue incertaine, tant les positions des 176 pays présents apparaissent opposées. Il y a les tenants d'une approche ambitieuse, une vaste majorité des États africains et européens. Pour eux, on n'arrivera à rien si on ne ferme pas le robinet en limitant la production toujours plus importante de plastique. Un avis que les États-Unis avaient fini par adopter avant de reculer à la suite de l'élection de Donald Trump. Le pays, premier producteur mondial de déchets plastiques, ne voit plus comment cette position pourrait permettre l'obtention d'un accord. Car un autre bloc de pays ne veut pas entendre parler d'une telle restriction de la production. Les géants pétroliers du Golfe, quelques producteurs africains comme l'Algérie, mais également la Russie, voient en effet dans le plastique un débouché pour leur industrie pétrochimique, attaquée à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce bloc met ainsi en avant le seul recyclage pour mettre fin à la pollution, alors qu'aujourd'hui, seuls 9% des plastiques sont réutilisés. Ce sont 2 ans de négociations qui doivent trouver une conclusion cette semaine, mais sans aucune garantie de succès.
Les discussions se poursuivront jusqu'à dimanche. Et puis, elle est la sportive la plus titrée de son pays. La nageuse australienne Emma McKeon a annoncé hier soir prendre sa retraite sportive à l'âge de 30 ans. Pour rappel, Emma McKeon, c'est 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 5 médailles de bronze remportées successivement aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, puis de Tokyo en 2021 et enfin de Paris l'été dernier. Vous écoutez RFI, il est 5h12 dans nos studios, 4h12 en temps universel.
Léa Boutin-Rivière.
Et on est encore ensemble pour une vingtaine de minutes. On va parler de cette loi très contestée en Irak. Les conservateurs chiites du pays voudraient passer une partie des normes sur le mariage et la garde des enfants entre les mains des tribunaux religieux. Sauf que cela risque de se faire au détriment des droits des petites filles. Le texte provoque une levée de boucliers au sein d'une partie de la population. Et direction ensuite l'ouest de la Russie. Depuis cet été, l'Ukraine a lancé une contre-offensive dans la région de Koursk. Et malgré les promesses russes de repousser rapidement ses troupes, et bien des mois plus tard, les soldats ukrainiens sont toujours là. La population commence à s'impatienter. Nous serons en direct. Et puis l'histoire de l'art côté femme, vue en BD, les relations mère-fille et leurs conséquences sur la santé, de la musique également. Tout ça, c'est à découvrir dans les prochaines minutes. Je vous le disais il y a quelques instants, ce lundi 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion de se rendre en Irak où l'amendement d'une loi fait bondir les défenseurs des droits des femmes et des enfants. Une réforme voulue par les chiites conservateurs du pays pour changer les normes en vigueur depuis 1959 sur le mariage, le divorce ou encore la garde des enfants. En proposant de passer par les tribunaux religieux, ce texte pourrait permettre à certaines communautés d'autoriser le mariage de petites filles âgées parfois de 9 ans seulement. Reportage Marie-Charles Troupy.
Les manifestants, majoritairement des femmes, sont quelques dizaines rassemblées dans une rue passante de Bagdad. Elles rejettent la réforme de la loi qui régit les affaires familiales en Irak.
En amendant cette loi, ils ont l'intention de remplacer les tribunaux civils irakiens par des tribunaux chiites et sunnites.
Sohaila El Hassem, activiste et membre de l'Alliance 188, du nom de la loi dite des statuts personnels.
Depuis 1959, nous allons devant un seul tribunal et les citoyens irakiens, quand ils signent leur contrat de mariage devant un juge, se voient demander à quelle religion rattacher ce mariage et le juge l'enregistre. Mais maintenant, ils veulent séparer ça entre les tribunaux chiites et sunnites.
Avec son collectif, elle dénonce un retour en arrière, une influence religieuse sur les affaires civiles qui rendrait plus facile le mariage des mineurs et accorderait la garde des enfants au père à partir de 7 ans. Derrière une banderole, une femme s'inquiète des conséquences que cela aura sur sa fille dont elle a la garde depuis son divorce.
J'ai été forcée de me marier quand j'avais 13 ans. Ma fille a maintenant 10 ans. Pourquoi devrait-elle être à la garde de la femme de son père? Ça fait 10 ans que je prends soin d'elle et ils veulent me prendre ma fille sans lui demander son avis. Nous rejetons cet amendement parce qu'il ôte leurs droits aux femmes et aux enfants.
Elle est interrompue par un homme divorcé qui soutient la réforme.
Je gagne 10 000 dinars par jour. J'ai 4 enfants et je dois verser 450 000 dinars par mois. La mère de mes enfants ne me laisse ni les voir, ni leur rendre visite. Jamais.
Les juges sont justes. Vous pouvez aller au tribunal et demander à les voir.
Lui oppose une manifestante. Le ton monte jusqu'à ce que l'homme reçoive une gifle et soit escorté hors de la foule. Cette scène surprenante à Bagdad illustre les tensions engendrées par cette réforme. Pourtant, les règles qui régiront la vie des Irakiens ne sont pas claires. Les autorités religieuses auront 6 mois pour écrire leur code juridique une fois la réforme votée. Pour Salem El-Moussaoui, ancien juge spécialiste du droit constitutionnel, difficile de savoir à quoi s'attendre.
Le problème du mariage des mineurs, c'est qu'il est source de désaccord entre les courants religieux. Le groupe sunnite malikite dit 12 ans minimum, l'école hanafite sunnite dit 9 ans et les chiites jafari disent 7. La crainte, c'est que les citoyens perdent confiance en notre système judiciaire irakien. Le résultat, c'est que nous serons soumis aux opinions et aux jugements personnels de religieux.
Quel contrôle conserverait l'État sur ces lois ? En cas de changement de responsable religieux dans le pays, les codes pourraient-ils être changés ? De nombreuses questions restent en suspens, y compris de savoir si la réforme sera cette fois adoptée au Parlement. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad, RFI.
RFI, il est 7h17 à Koursk, en Russie, où depuis le mois d'août, l'armée ukrainienne a entamé une contre-offensive. Après des progrès rapides, les soldats de Kiev ont reperdu du terrain ces dernières semaines. Mais cela pourrait changer avec la récente autorisation américaine de frappe en profondeur. Du moins, c'est ce qu'espère le pouvoir ukrainien. Nous sommes en ligne avec notre envoyée spéciale permanente en Russie, Anissa El-Jabri. Bonjour.
Bonjour.
Anissa, vous vous êtes rendue dans cette région proche de la frontière. Vous êtes rentrée hier. Alors, la capitale régionale abrite toujours des évacués, mais la lassitude et même l'amertume commencent à se faire ressentir parmi les habitants.
Oui, voilà, entre fin août où je me suis rendue sur place, c'était quelques semaines après le début de l'incursion, entre fin août et aujourd'hui, eh bien l'atmosphère a bien changé. Prenez le cercle de la ville, par exemple, c'était le point névralgique de l'aide humanitaire, un lieu où on accueillait fièrement la presse pour montrer l'organisation des volontaires H24, la nourriture, les vêtements, les dons qui arrivaient de toute la Russie. Eh bien aujourd'hui, on a visiblement plus très envie de voir des journalistes. Des évacués ont été relogés plus loin dans la région, voire carrément jusque dans la banlieue de Moscou, mais il y a eu récemment, localement, des contestations des modalités d'aide. C'est rare en Russie, vous le savez. Des manifestations ont aussi été organisées pour exiger davantage des autorités. Enfin, la population au sens large semble avoir bien du mal à comprendre pourquoi l'armée ukrainienne n'a pas encore pu être repoussée du territoire russe.
Et Anissa, ce climat a un impact sur la perception du conflit.
Eh bien, c'est en tout cas ce que disent certains observateurs locaux, comme Alexandre Novikov. Il est étudiant et aussi depuis août très impliqué dans l'aide aux évacués. Il tient le bureau de distribution d'aide ouvert à Koursk par 15 mouvements d'opposition anti-Kremlin. Voici ce qu'il m'a dit lors d'un rendez-vous dans un café de la ville sur ce qu'il perçoit de l'évolution de l'opinion.
Au début de l'opération militaire spéciale, ceux qui la soutenaient pensaient qu'elle serait rapide et se déroulerait selon le plan. Puis, un an plus tard, lorsque des groupes de sabotage ont commencé à entrer dans la région de Belgorod, beaucoup d'habitants de la région de Koursk Minsk en tant que voisin n'était pas content. Beaucoup voulaient une réponse ferme, que les choses cessent de traîner, qu'il y ait une frappe forte et décisive quelque part et qu'on en finisse. La troisième étape du changement d'état d'esprit s'est produite lorsque la région de Koursk a été touchée directement, d'abord par des bombardements, puis par une invasion, puis par l'occupation du territoire. Cette partie de la population, ces partisans actifs de la décision du pouvoir, je pense qu'ils sont moins nombreux maintenant. Quant aux personnes qui ont toujours été en faveur de la paix, elles ont continué à l'être, mais surtout, beaucoup parmi les indécis les ont rejoints. Et cette tendance, c'est évident, elle s'accentue avec le temps. De plus en plus de gens disent, d'une manière ou d'une autre, il faut mettre fin à tout ça.
On sait bien que dans la Russie en guerre, les sondages sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Mais ce que dit Alexandre Novikov sur le climat à Koursk semble aussi avoir un impact plus large dans le pays. Le dernier sondage de l'Institut Russian Fields réalisé début novembre montre que le soutien à des négociations de paix jamais n'a été aussi haut en Russie. 54% y sont aujourd'hui favorables, quand 36% veulent toujours la poursuite des hostilités.
Anissa El-Jabri, notre envoyée spéciale en Russie. Quelles femmes ont été pionnières de l'art, lesquelles ont été reléguées au second plan des archives, oubliées, voire carrément effacées? C'est à ces questions que répond notre invitée culture ce lundi. Marion Augustin est autrice, scénariste de bande dessinée, et elle signe cet automne Histoire de l'art au féminin, un album à mettre entre toutes les mains, jeunes et moins jeunes. Isabelle Chenu l'a rencontrée.
Bonjour Marion Augustin.
Bonjour.
Voici une bande dessinée à lire en famille, l'histoire de l'art au féminin. C'est un projet grand public qui est destiné à rendre aux femmes artistes le rôle essentiel qu'elles ont eu dans l'histoire de l'art.
Oui, il y a eu des femmes artistes de 1500 à nos jours à peu près, toujours, dans de nombreux pays. Et elles ont été de toutes les avant-gardes, elles ont été des précurseuses, mot qu'on utilise peu au féminin.
Alors on en découvre beaucoup, parce que celles qui datent du XVIe ou XVIIe siècle, on n'entend pas forcément parler. On peut citer leurs noms, Sofonisba Anguissola par exemple, c'est une Italienne.
Oui, c'est une Italienne qui a été formée en Italie, mais qui a aussi beaucoup travaillé en Espagne.
On peut aussi citer le nom de Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi. Toutes ces femmes, est-ce qu'elles ont des points communs?
Évidemment, elles ne pouvaient pas signer leur contrat, elles ne pouvaient pas accéder aux académies pour se former. Donc, soit elles étaient dans un milieu favorable à la formation, et quand bien même elles étaient dans une famille d'artistes, elles devaient être plus douées que leurs frères pour avoir du succès et pour accéder aux commandes. On s'arrête sur certains portraits, une douzaine de femmes. On avait envie de donner, pour certaines d'entre elles, des connues et des moins connues, une petite notice bibliographique et puis aussi un ou deux tableaux.
Quand vous vous êtes lancée dans cette aventure au scénario, Marion Augustin, est-ce que vous avez eu des surprises?
J'ai eu l'immense et joyeuse surprise de découvrir des dizaines, des centaines d'artistes femmes. M'appuyant sur les histoires générales de l'art, franchement, on n'imagine pas qu'il y a autant de femmes, hein, parce qu'elles sont complètement invisibilisées. Au fur et à mesure que je cherchais des liens entre les femmes, je découvrais qu'elles s'étaient influencées les unes des autres. Souvent, on connaît quelques figures qui ont eu des destins absolument particuliers. Je pense à Frida Kahlo, évidemment Nikita Saint-Phalle, qui sont plus proches de nous. Et souvent, on les connaît plus pour leur vie que pour leurs œuvres. L'idée de cette bande dessinée, c'est de les montrer d'abord au travail. Quand on se promène au Louvre, au musée d'Orsay, il y a quand même très 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 peu de femmes sur les cimaises. Je pense que c'est le cas dans de nombreux musées dans le monde entier. Il faut aller peut-être chercher dans les réserves et puis peut-être faire des politiques d'acquisition qui sont en cours. Hein.
Je me demandais aussi si les régimes politiques avaient eu une influence dans l'histoire sur la visibilité de ces femmes artistes.
Le code Napoléon, par exemple, en France, en 1804, a été un recul énorme, en fait, pour le travail des femmes et donc pour les artistes femmes. Inversement, il y a eu des moments beaucoup plus favorables. Par exemple, aux Pays-Bas, au moment de l'âge d'or, les femmes avaient la possibilité de travailler, d'ouvrir des ateliers.
On se pose toujours la question de savoir comment ces femmes, qui pour certaines d'entre elles ont eu énormément de succès de leur vivant, sont tomber dans l'oubli. Quels sont les mécanismes à l'œuvre?
Il y a la préservation des archives. Pour qu'un artiste continue d'être montré, il faut que ses ayants droit continuent de valoriser son œuvre, que les conservateurs montrent son œuvre, que les historiens d'art les racontent. Et donc tout ça, ça a été des mécanismes qui ont touché les femmes, c'est-à-dire pas de valorisation, pas de préservation des archives et pas d'historien de l'art qui s'y intéressait. Artemisia Gentileschi, elle a été redécouverte au début du XXe siècle, alors que c'était la plus grande peintre baroque italienne.
Merci beaucoup Marion Augustin pour cette bande dessinée publiée chez Casterman. Ça s'appelle « L'histoire de l'art au féminin ».
Et c'est une interview menée par Isabelle Chenu.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et comme tous les matins, on retrouve Caroline Paré et on s'intéresse aujourd'hui aux relations familiales, pas n'importe lesquelles, puisqu'on va parler de la relation mère-fille. Au-delà des tracas du quotidien, cela peut avoir un impact direct sur la santé quand ça ne se passe pas bien. C'est ce que nous explique Soukaina Diop, maîtresse de conférence au département de psychologie et docteur en psychologie clinique à l'université Cheikh Diop à Dakar.
Soukaina Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie clinique à l'université Cheikh Diop de Dakar au Sénégal. Est-ce qu'une relation mère-fille perturbée, dysfonctionnelle, ça peut avoir un impact à long terme sur la santé?
Alors écoutez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur la santé et effectivement une relation conflictuelle d'une manière générale peut avoir un impact sur la santé par rapport au stress que ça peut causer et toutes les difficultés qui sont liées au stress comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'humeur qui peuvent être liés au stress. Maintenant, la composante relation mère-fille, effectivement étant donné que c'est une relation très importante, voire primordiale dans une vie, oui, elle peut avoir un impact sur la santé d'une personne.
Et dans ces cas-là, on se pose forcément la question, comment prendre la bonne distance ?
Oui, parfois on n'a pas toujours la capacité de pouvoir se poser cette question. Parfois on est vraiment tellement dans la situation qu'on ne se donne pas forcément la distance qu'il faut pour voir ce problème. Alors oui, c'est une question importante.
Et précisément, s'il fallait donner un conseil au moment où on prend conscience du problème, vous donneriez quel conseil ?
D'en parler, de communiquer. De prendre du temps pour soi et d'essayer de trouver l'espace pour en parler, pour réfléchir à soi-même, ce qu'on souhaite avoir de cette relation.
Merci beaucoup Soukaina Diop, tout à l'heure dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous allons parler du viol conjugal, violence dans le couple, rapport sexuel non consenti, avec ou sans brutalité, avec son partenaire de vie, identifier, prévenir, prendre en charge. On se retrouve avec nos invités, vos témoignages, à 9h10 et 1h10 temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Allez, avant de se quitter, je vous propose un peu de musique avec ce titre, ça s'appelle En équipe, c'est signé Soprano et Vakra, et c'est sur le 7e album de Soprano, Freedom.
C'est la vie de tempête, mon équipe arrive où je pète. On est cramé comme sur un barbecue. On est cool, t'inquiète, on fait briller la discothèque. C'est pour ça qu'elle se fait coquette. On est frais, t'inquiète. Sapé sur l'avenue montaine, toi t'es sapé comme un croque-mitaine. À la bonne franquette, on te met à l'heure comme une pâtée. Quand on nous voit, ça clip, certes.
Petit à petit, j'ai plus ton temps. Les ouais, j'appelle ton même poteau tonton. Pour décompresser un tir montant. Encore un départ sans destination. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé de là. Marre de regarder ta laser. Petit à petit, la soirée en bazar.
Ça sort en équipe, en équipe, en équipe, équipe de malade. Ça claque de l'équipe, de l'équipe, de l'équipe, de pipe de malade. Ça traîne en bolide, en bolide, en bolide, une caisse de malade. Qu'importe ton équipe, ton équipe, ton équipe, alaykoum salam.
Et une équipe, bingo. Pour le coco dans les mercos. Et du toto, lina, et du toto. Et une équipe, bingo. Pour le coco dans les mercos. Et du toto, lina, et du toto.
Yeah. Poto laisse tomber. Elle t'a dit vas-y laisse tomber. Pourquoi t'insistes laisse tomber. Quand c'est non c'est non. Lève tes mains de son déhanché. On va t'apprendre ce qu'elle respecte.
Quand c'est non c'est non.
Elle est venue pour s'ambiancer. Accompagnée de ses fiancés. T'es en train de forcer. Bouge ou tu vas te faire fumer. Comme le shérif de Bob Marley.
Ne fais pas un gag pour maintenant. Mais le veux-tu bien maintenant. Non c'est pas un accessoire. Ne fais rien précipitamment. Elle va te laisser sur le bas côté. Pour un meilleur finalement. C'est sa soirée là. C'est sa soirée là.
Ça sort en équipe.
et Soprano sur RFI. Il est quasiment 5h30 ici dans nos studios. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à Hugo Vallière à la réalisation et à Grégory Lesca à la rédaction en chef. Restez avec nous dans un peu plus de 30 secondes, toute l'actualité africaine.
Lundi sur RFI.
Pourquoi les mathématiques sont universelles ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Regard croisé de deux mathématiciennes engagées dans la transmission et le partage de leur science, mais surtout du plaisir et même de la joie de chercher et de comprendre, comme le disait Galilée, pourquoi le monde est écrit en langage mathématique.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.